Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Disparu en l'an 2000, Serge Lebovici a été l'une des grandes figures historiques de la psychanalyse en France et l'un des grands praticiens de la psychiatrie de l'enfant, domaine dans lequel il était une référence. En 1993, Serge Lebovici était l'invité d'Éliane Contini dans Mémoire du siècle. Au cours de cet entretien, il revenait sur ses années de formation, de pédiatre d'abord, et sur sa découverte de la psychanalyse. Il revenait aussi sur la période de l'occupation qui marqua à vie cet enfant né en 1915 dans une famille juive originaire de Roumanie, sur l'arrestation par la Gestapo de son père, médecin lui-même, qui mourut en déportation. Président de 1975 à 1977 de l'Association psychanalytique internationale que fonda Sigmund Freud en 1910, attaché à une certaine orthodoxie, Serge Lebovici est toujours resté fidèle à la Société psychanalytique de Paris et à son institut de formation. Mettant au passage en doute les compétences de thérapeute de Françoise Dolto, il ne manque pas d'ailleurs de rappeler ici sa ferme et constante opposition à Lacan, au lacanien et au lacanisme. Mais au-delà des batailles de chapelle, Serge Lebovici aura toujours eu le souci de défendre la pratique psychanalytique dans tous les secteurs de la psychiatrie, des soins et de la prévention.
Mémoire du siècle, Serge Lebovici. On peut dire de Serge Lebovici qu'il a passé une vie en psychanalyse et une vie en psychanalyse au service de l'enfant. Pionnier, il l'a été, à la fois dans l'action et la réflexion, pour comprendre et aider l'enfant dans son développement et ses difficultés. Il a notamment participé à l'introduction de l'approche psychanalytique dans les hôpitaux et les centres d'enfants. Il a été président de l'Association internationale de psychanalyse et de l'Association mondiale de psychiatrie du bébé. Et s'il accepte de mettre en perspective, à sa manière, la discipline psychanalytique à travers les décennies qu'il a traversées et qu'il continue de vivre, il fait preuve de la plus grande réserve sur ses émotions personnelles. Professeur Serge Lebovici, cette émission s'intitule « Mémoire du siècle ». Pour un psychanalyste, évidemment, la notion de mémoire est bien particulière. Au fond, qu'est-ce que pour vous la mémoire et qu'est-ce que le souvenir ?
Bien, vous posez une question là qui est tout à fait centrale pour un psychanalyste et pour l'histoire de la psychanalyse. Freud, au début de son œuvre, a pensé que la psychanalyse consistait à découvrir, à retrouver des souvenirs qui étaient refoulés, qui étaient cachés par l'amnésie infantile. Et c'était pour lui cette redécouverte qui constituait l'amorce, qui constituait l'essentiel de la guérison. Il a donc levé le refoulement. Les travaux actuels de neurobiologie ont montré qu'il n'en était rien et qu'il n'y avait pas d'enregistrement possible à cet âge de la vie. Alors ce qui reste vrai, et qui est tout à fait à l'honneur de Freud, c'est qu'à l'âge adulte, quand des événements surviennent qui rappellent les choses du passé, au fond, il y a une espèce de reconstruction qui se produit abruptement et qui permet de dire que les événements ont eu lieu. Alors ça, tout ça, les travaux les plus anciens et les travaux les plus modernes, et confirmant dans une certaine mesure les vues de Freud. Est-ce que je peux m'expliquer là-dessus un peu? Eh bien, je vais prendre peut-être un exemple qui relève de la pratique quotidienne. J'ai une patiente qui vient d'être refusée pour entrer dans une institution. Et alors, elle n'a pas compris pourquoi elle était refusée. Et quelques jours après, elle a fait un rêve où elle se voyait dans son enfance avec une institutrice et sa mère qui déchiraient l'une et l'autre ses cahiers pour lui disant que c'était pas bien écrit. Si bien qu'il y avait une correspondance entre être refusée et se faire déchirer les cahiers par la mère. Et elle pouvait comprendre que ce qui lui arrivait maintenant, c'était comme si, de nouveau, elle était maltraitée par sa mère, alors que c'était une institution, peut-être maternelle. Au fond, elle a donc retrouvé ce souvenir du fait d'un refus, d'une vexation, comme celle qu'elle avait subie devant ses camarades antérieurement. Voilà, si vous voulez, ce que le passé prépare pour constituer la mémoire du présent. Donc le présent, c'est une invention du passé, si vous voulez. Alors on peut aller plus loin dans ce sens, et remarquez que dans les études actuelles sur les très jeunes enfants, tout ce qui se passe entre la mère et l'enfant, et les parents et l'enfant, et ceux qui s'occupent du bébé, se passe des interactions. Ces interactions sont mêlées à des événements qui vont constituer ce qu'on appelle les scénarios. Et ces scénarios, ce sont au fond des éléments pré-narratifs. Alors la mémoire, elle est une reprise dans la narration d'une procédure très ancienne. Et là, je prends un autre exemple pour me faire comprendre, si vous voulez. Je suppose que j'entende quelqu'un qui me dise « j'avais une mère très dévouée ». Quand il était bébé, il ne savait pas ce que c'était qu'une mère dévouée. Il pouvait penser, s'il parlait, « quand je crie, ma mère me donne le sein ». Plus tard, la procédure qui va se sémantifier aboutit à dire « ma mère était très dévouée ». Mais s'il laisse revenir ses souvenirs en évoquant une mère dévouée, il va retrouver ces éléments affectifs qui coloraient son amour pour sa mère et qui lui permettent maintenant de reconnaître la photo de sa mère en un centième de seconde. Alors je peux aller plus loin encore en vous rappelant que nous avons des cognitions qui nous permettent de reconnaître la photo de notre mère en un centième ou deux centièmes de seconde. Et les cognitivistes, qui sont des savants exacts, disent que ça ne les intéresse pas plus de savoir qu'on reconnaît la photo de sa mère en un centième de seconde et qu'on distingue la lettre A de la lettre B en un centième de seconde. Mais c'est pas vrai, bien entendu. Parce qu'on sait que les nouveau-nés reconnaissent la photo de leur mère dès les premiers jours de leur vie. Alors on peut dire que cette mémoire est colorée d'éléments affectifs. Et si on connaît la photo de sa mère, c'est parce qu'on en a reçu beaucoup de choses. Si bien qu'on voit bien que là, il y a une espèce de conjonction entre les éléments les plus modernes de la neurobiologie et la psychanalyse du point de vue de l'affectivité. C'est l'affectivité qui permet de dire « j'avais une mère très dévouée », qui permet de reconnaître la photo de sa mère en quelques centièmes de seconde. Et c'est dans cette affectivité que se situe la base neurobiologique de la mémoire.
Alors, en vous écoutant, professeur Lebovici, je repense à tout ce que nous répétons dans notre vie, notamment par rapport au premier exemple que vous donniez de cette femme, donc, qui ne veut pas entrer en institution parce que quelque chose lui revient aussi en mémoire. Je veux dire, mais que ça nous revienne ou non en mémoire, est-ce que nous ne sommes pas condamnés à répéter?
Vous touchez là aussi une élément théorique de la psychanalyse sur la compulsion à la répétition. Freud, vers les années 1920, avait décrit le besoin de répéter comme faisant partie fondamentalement de la théorie des instincts. C'est ce qu'il appelle l'instinct de mort, c'est-à-dire la tendance au repos pour ne pas innover, si vous voulez. C'est ça ce qu'il appelle la pulsion de mort, l'instinct de mort. Alors c'est vrai que nous sommes amenés à répéter et que la psychanalyse nous amène à comprendre, grâce au transfert qui est la répétition la plus pure dans la situation et le cadre analytique, que nous ne devrions pas répéter. La patiente dont j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, à propos de son refus d'entrer, d'être acceptée dans une institution, si elle vit toujours la honte qu'elle a subie de la part de sa mère, rejettera cette institution, elle ne cherchera pas à y entrer. Si au contraire, elle comprend que ce rejet est ressenti douloureusement du fait de la honte qu'elle a subie quand sa mère est venue déchirer ses cahiers à l'école, à ce moment-là, elle pourra changer d'attitude et modifier son besoin de répéter. C'est un des éléments essentiels de la psychanalyse, que dans le transfert, c'est-à-dire dans la situation thérapeutique, on puisse comprendre les racines répétitives d'un comportement et les modifier de ce fait.
Serge Lebovici, vous avez raconté à Marie-France Castarède, dans un livre qui s'intitule « L'enfance retrouvée », justement, vos souvenirs. Alors, quels sont ces souvenirs et, justement, quel écho ces souvenirs éveillent en vous, aujourd'hui, compte tenu du fait que vous êtes psychanalyste? Vos propres souvenirs?
Mes propres souvenirs, ils sont évidemment retrouvée, reconstituée en partie par la psychanalyse et aussi par l'expérience quotidienne que j'ai de la psychanalyse, car au cours des traitements, on se laisse aller à ces associations d'idées et on évoque sa propre vie mentale. Alors, mes souvenirs, ils sont très riches, bien entendu, parce que j'ai vécu aussi une période agitée dans ma vie. J'ai été un homme jeune pendant la guerre et j'ai été victime de persécutions, comme j'étais juif. Donc tout cela se colore aussi de cet ensemble persécutif et ramène à des souvenirs d'enfance où je me suis senti, par exemple, persécuté par mon père. Par exemple, voilà un élément, si vous voulez. Les punitions paternelles ont été réobjectivées, revécues dans les dangers que j'ai vécus dans l'âge d'adulte jeune et puis plus tard dans la vie.
Vous êtes né en 1915.
Oui.
Et vous êtes né d'un père roumain.
Oui.
Et d'une mère qui avait de multiples origines.
Multiples. Son père, elle, était juif polonais. Sa mère était alsacienne. Ma grand-mère maternelle était donc alsacienne. Et mon grand-père paternel était d'origine polonaise.
Vous êtes né en France.
Je suis né à Paris.
Vous vous sentez comment?
Je me sens français.
Vous vous sentez juif aussi?
Non. Enfin, je suis juif. Je n'ai pas à le cacher. Je suis juif parce que j'appartiens à un milieu comme ça. Mais je ne me sens pas juif. Je n'ai aucun besoin de culturalisme juif. Je suis contre les nationalismes culturels. Il faudrait qu'ils constituent, on le voit bien en Europe actuellement, un des dangers de la civilisation, de l'évolution de la civilisation actuelle.
Alors quand même, malgré tout, cette identité juive, vous l'avez certainement ressentie lorsque, pendant la guerre, donc, votre père a été emmené et est mort.
Oui.
Donc pour un enfant qui, comme tous les enfants, qui ont vécu
ouais.
dans l'enfance, justement, ouais. l'Édipe dont vous aviez commencé à parler, je pense qu'il ouais. devait quand même y avoir un rapport.
Mais bien sûr. Quand on vit des choses comme ça et que son père est arrêté, on vit toute sa culpabilité, comme si on était au fond responsable de cela, comme si on n'avait pas fait tout pour le protéger. Donc, si vous voulez, la culpabilité, les sentiments inconscients de culpabilité sont aggravés par cela. Je prends un exemple très simple. Je me suis cassé le bras après la guerre, en allant à une séance de psychanalyse, au moment où je revivais les éléments de culpabilité à l'égard de mon père. Je me suis cassé le bras de façon idiote. En tournant la manivelle, il y avait un retour de manivelle, il m'a cassé le bras. Or, j'avais eu une fracture du bras une fois, quand j'étais enfant. J'ai aidé mon père à faire marcher sa voiture. Le matin, à ce moment-là, il n'y avait pas de démarreur. Il fallait remonter la manivelle. J'ai aussi mis la manivelle en haut, ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai eu une fracture du bras, fracture de l'avant-bras, qui a été compliquée à réduire, pour laquelle mon père était assez inquiet. Vous voyez donc, j'ai refait moi-même une fracture du bras, comme si mon père me la causait, à cause de mes sentiments de culpabilité à son égard. Voilà, si vous voulez, un élément comme ça de la mémoire vécue, qui est assez amusant, enfin amusant, intéressant, je pense.
Vous parlez très discrètement de cette période de la guerre que vous avez vécue, je pense, intensément. Notamment, vous racontez aussi le fait que votre père a sauvé votre mère avec beaucoup de courage.
Oui. Mais quand il a été arrêté par la Gestapo, ma mère était là, évidemment, dans l'appartement. Il a eu la présence d'esprit et le courage de dire que ce n'était pas sa femme. Il a dit que c'était sa maîtresse et les Allemands l'ont traité de cochon de juif, bien entendu. Ils ont laissé partir ma mère, sachant ou non que c'était sa femme, enfin. Ils l'ont laissé partir. Donc ma mère a été sauvée par cette intervention courageuse et aussi pleine de présence d'esprit.
Et votre père a été emmené?
Mais on ne sait pas où il a été emmené. Il a été emmené d'abord en Alsace, comme on s'appelait, à Struthof, et puis il était arrêté avec quelques hommes politiques et probablement il a été déporté à Auschwitz. Enfin, il est d'abord resté longtemps à Pithiviers, puis ensuite à Drancy, il a été déporté de là. Probablement à Struthof, il est peut-être mort à Struthof, peut-être à Auschwitz, je ne sais pas. Personne ne peut le savoir, il n'y a aucun témoignage.
Et vous, pendant la guerre, qu'est-ce que vous avez fait? Où étiez-vous?
J'étais interne des hôpitaux, et j'ai pu être interne des hôpitaux. J'avais bénéficié d'une mesure spéciale, parce que j'avais la croix de guerre jusqu'en 43, je crois, ou 44. Puis après ça, nous avons été chassés de l'assistance publique. Nous étions 5 à être restés à l'assistance publique. Alors là, j'ai dû me cacher dans des conditions beaucoup plus clandestines et plus difficiles. Mais je devais quand même gagner ma vie, celle de ma femme et celle de ma petite fille, qui était déjà née. Et puis je devais aussi aider ma mère et mes sœurs qui étaient cachées en Sarthe. Donc il fallait bien que je fasse des choses qui rapportaient de l'argent, en même temps que je ne me fasse pas arrêter. C'était une vie un peu compliquée. Puis il y a eu aussi la résistance qui est intervenue vers le 44. J'ai commencé à être contacté pour soigner les blessés, essayer les blessés de la résistance et essayer de les dépanner. Donc j'ai eu une vie très compliquée et très dangereuse à ce moment-là, bien entendu.
Mmh. Quel souvenir ça vous laisse?
J'en rêve, je fais encore des cauchemars. Quelquefois, je suis arrêté par des Allemands en uniforme. Alors, je n'en veux pas aux Allemands, parce que pour moi, les Allemands ne sont pas responsables de tout ça, mais je trouve que l'humanité m'a montré son côté de pie à cette époque-là, vraiment. Il est vrai qu'on a été aidé par des amis français qui ont été très courageux à nous prendre en charge, à nous aider, à donner des fausses cartes d'identité, etc. On a tout vu pendant cette période, du meilleur et du pire.
Vous portiez l'étoile jaune ?
Oui, quand j'allais faire des démarches officielles, je la cachais aussi, enfin j'avais toutes sortes de combinaisons. Oui, j'avais fait l'idiotie de me déclarer sous l'influence de mon père d'ailleurs, qui était pour l'ordre et la justice, enfin ce qu'il appelait la justice à ce moment-là, puisqu'on dit qu'il fallait déclarer, il fallait se déclarer. J'ai donc été me déclarer, ce qui était une idiotie manifeste.
Parce que votre père avait une admiration pour les Allemands ?
Admiration, c'est beaucoup dire, mais il était très fier de voir l'ordre allemand régner, les Allemands défiler en chantant des chansons faisant la gloire de la jeunesse et du travail. Il trouvait ça formidable, il trouvait que c'était merveilleux. Il citait toujours une phrase de Goethe qui disait « Mieux vaut l'injustice que le désordre ». Il était pour l'ordre. Vous levez la tête.
Vous l'avez senti passer.
Oui, oui. Enfin, tout ça, n'est-ce pas, c'est ce que je redigère maintenant. Enfin, je schématise, bien entendu, parce que vous me posez des questions comme ça, c'est plus compliqué. Tout ça est un peu schématique, mais bien entendu, mon agressivité et mon admiration pour mon père se reflètent dans ce que je dis là. C'était un homme paradoxal de dire qu'il était préféré le désordre, l'injustice au désordre. C'est pas ça qu'il pensait, mais il le disait aussi, donc, si vous voulez. Il y avait là, chez moi, une vague de revendications agressives contre lui qui s'exprime dans ce souvenir.
Oui. Est-ce que, justement, vous dites que vous vous sentez français, est-ce que chez vos parents, il y avait ce sentiment d'appartenir à plusieurs origines,
non,
d'être
non,
une
non.
certaine richesse malgré tout ?
Oui, non, non. Enfin bon, à la génération de mes grands-parents, c'est évident. À la génération de mon père, pas du tout, parce que mon père n'est jamais rentré en Roumanie. Il n'est jamais retourné en Roumanie. Et pour lui, il avait abandonné toute sa culture d'origine. Pas la culture juive, parce que la culture juive, il était pieux, mais pieux à sa manière. Il parlait, on récitait les prières chez moi. Je racontais hier à mon petit-fils que quand on avait un nouveau fruit, on récitait chacun une prière pour glorifier Dieu qui apportait de nouveau cette année-là les fraises ou les cerises. Mais par ailleurs, on lisait la Bible tous les samedis solennellement. C'est moi qui lisais la section de la Bible correspondant à la semaine en français, d'ailleurs. Et on la commentait, mon père et moi, devant ma mère et mes sœurs, qui devaient écouter avec respect les hommes parler. Mon père me bénissait chaque soir, chaque semaine, pas chaque soir. Chaque vendredi soir, on faisait le kiddush, c'est-à-dire la sanctification de la fin de la semaine. Mon père me bénissait. J'ai été fier que j'ai un fils, d'avoir un fils, bien entendu, ça aussi. Alors c'est très dans la tradition juive.
Et vous avez coupé avec tout ça ?
Oui, j'ai complètement coupé avec ça. Après l'arrestation de mon père, j'ai mis Dieu dans le même camp. J'ai coupé tout ça.
Mais ça revient dans la famille ? C'est-à-dire vos petits-enfants
Mes petits-enfants, c'est compliqué parce que je ne sais pas très bien ce qui se passe pour eux. Ils appartiennent à des parents qui ne sont pas, sont pas juifs. Son père n'est pas juif, leur père n'est pas juif. Mais ils sont attirés par les traditions juives. J'ai un petit-fils qui, par exemple, cette année a fait le jeûne solennel, en disant que c'était pour voir ce que ça faisait comme effet. Je ne suis pas absolument convaincu que ça soit vrai. Ce n'est pas plus compliqué. Enfin, je veux dire qu'ils ont une espèce de besoin de retrouver des traditions, sans doute.
Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que c'est comme ça, insignifiant, comme dirait Lacan, qui revient ?
Je crois que c'est aussi un phénomène de culture actuellement. Les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose.
Mémoire du siècle, Serge Lebovici, par Eliane Contini.
Pour bien se rendre compte que l'approche des enfants, notamment des enfants psychotiques, a vraiment évolué grâce à la psychiatrie et à la psychanalyse, ce qui a été tout votre travail pendant toutes ces années, il faut rappeler ce que vous racontez, à savoir que pendant la guerre ou un peu avant la guerre, à Kremlin-Bicêtre, les enfants que l'on appelle aujourd'hui psychotiques et qui à l'époque avaient une réputation d'être de grands arriérés, je crois, étaient attachés sur des chaises percées et vivaient dans des conditions épouvantables.
condition qu'on a vue après, il y a 2 ans, quand on a vu les premiers enfants, les enfants des orphelinats qu'on avait en Roumanie, n'est-ce pas ? Avant la guerre en France, c'était la même chose que ce qu'on a vu en Roumanie, n'est-ce pas ? L'animal plus complet, les cris, les hurlements, toute la nuit, enfin, des choses épouvantables.
En ce qui vous concerne, donc, Serge de Beauvissy, quand avez-vous entendu parler de Freud la première fois ? Et comment ça s'est dessiné, tout ça ?
Moi, je crois que beaucoup de psychanalystes ont une vocation pendant l'adolescence. Et moi, j'ai lu Freud pendant l'adolescence. Il y avait chez mon père l'introduction à la psychanalyse. J'ai lu l'introduction à la psychanalyse. Je ne recommanderais pas ce livre du tout comme première approche de la psychanalyse. Enfin bon, c'est ce qu'il y avait. C'est ce que beaucoup de gens croient qu'il faut faire. Le mot introduction trompe. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Et puis alors, en commençant ma médecine, j'ai été à des cours de psychologie. J'allais à la présentation clinique de Georges Dumas, qui était célèbre à ce moment-là, qui se passait le dimanche à Sainte-Anne. J'ai fait des certificats de psychologie. J'ai été intéressé, bien entendu, par ça. Et j'ai été barré par mon père, qui trouvait que ce n'était pas une orientation valable, parce que c'était du bavardage, ce n'était pas de la vraie médecine. Enfin. C'est seulement donc pendant la guerre que j'ai rencontré mon psychanalyste futur, à la fin de la guerre, dans un hôpital militaire, et j'ai commencé la psychanalyse dans cet hôpital militaire. C'était Nacht.
Mais quand vous étiez enfant, est-ce que justement, enfin, tout ce qui pouvait se passer dans votre enfance, dans vos fantasmes par rapport à vos parents, est-ce que ça vous avait donné envie justement de comprendre ou d'aller plus loin ?
Sûrement. J'ai été un grand lecteur, et ça, je crois que c'est un bon signe, un grand lecteur de romans, de Dostoïevski, je lisais ça pendant l'adolescence, Tolstoï, probablement aussi Stendhal, tout ça m'a donné du goût pour comprendre les choses qui se passaient dans la tête des gens. Et c'est comme ça que les choses naissent.
Et donc Nash, c'était avant la guerre ou après la guerre ?
Non, Nash, c'était avant la guerre. Il a été un analyste avant la guerre. C'est cette génération qui a succédé à la première génération des surréalistes en France, qui ont été les premiers intéressés par la psychanalyse, mais qui n'ont pas été vraiment... Qui ont été d'ailleurs plutôt mal reçus par Freud, parce que Breton a été voir Freud à Vienne. Ils sont mal entendus. Enfin, après ça, il y a eu Paris Bonaparte qui a fondé en 1927... avec la Forgue en particulier, la Société psychanalytique de Paris à laquelle j'appartiens. Et les premiers psychanalystes se situent à ce moment-là, quand Löwenstein est venu, sur le conseil de Freud en France, faire des analyses didactiques. Il connaissait la princesse Bonaparte. Et il a fait des analyses didactiques des principaux analystes qui ont survécu après la guerre et qui ont commencé à diffuser l'analyse. Donc j'ai été un de ceux qui ont été le premier en analyse à la fin de la guerre et après la guerre, qui est constitué cette génération qui est en train de s'éteindre maintenant, il faut bien le dire, mais qui a constitué le noyau solide de la psychanalyse en France.
La Forgue, c'est un peu compromis pendant la guerre.
La Forgue était alsacien, donc il parlait l'allemand. Il a été compromis en allant à une exposition d'un sculpteur dont le nom m'échappe maintenant, à Berlin. Et il a de ce fait participé à quelque chose de la culture glorifiée par les nazis. Il a été exclu de la Société psychanalytique de Paris après la guerre, pour collaboration. En fait, il avait aidé certains juifs à se cacher. Il avait, comme beaucoup de gens, il s'est protégé un certain nombre de gens, mais il s'est compromis et il a été donc exclu. Je crois que d'ailleurs que c'était un psychanalyste discutable à bien des égards.
Il n'était pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a eu, vous savez qu'on fait des travaux de recherche sur l'histoire de la psychanalyse en France notamment, et beaucoup de psychanalystes finalement sont restés soit en retrait, soit carrément dans la collaboration.
Collaboration,
enfin peut-être pas, mais...
Non, je crois pas. Je crois que la psychanalyse a disparu en France pendant la guerre d'abord.
Et notamment, il y avait le traitement qu'on infligeait aux malades mentaux. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
Ce que vous voulez dire,
pardon. Pendant la guerre, il paraît qu'on a vraiment maltraité, laissé mourir de faim les malades dans les hôpitaux psychiatriques.
Oui, bien sûr. C'est surtout en Allemagne, ça s'est fait. Alors systématiquement, vous savez qu'en Allemagne, on faisait mourir les malades mentaux de faim.
Oui, c'est ça.
On leur donnait de la soupe à l'eau, etc. Alors en France, on n'aura pas donné les rations nécessaires. Et beaucoup, en effet, ont souffert de maladies de carence et sont morts plus rapidement que ça n'aurait été le cas. Ils ont été, en effet, maltraités. Pas systématiquement comme en Allemagne, mais on ne faisait pas les efforts nécessaires pour les considérer comme des citoyens à recevoir des rations habituelles.
Et vous étiez au courant à l'époque de ce qui se passait ?
Non, ça je ne pourrais pas le dire. Non, c'est après la guerre qu'on a su ça. Moi, j'étais trop jeune pour ça.
Alors, justement, la psychanalyse, disons, la psychanalyse, la pédiatrie et l'enfance, comment on pourrait raconter cette histoire ?
Bien. Alors, vous voulez savoir les applications de la psychanalyse à l'enfant.
Aussi bien, comment la psychanalyse est entrée en pédiatrie.
Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler que Freud considérait que la psychanalyse, c'était la connaissance de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il s'agissait de savoir ce qui s'était passé dans l'enfance. Mais on ne faisait pas psychanalyser l'enfant parce que Freud pensait que on ne pouvait pas comprendre directement ce que pensait un enfant qui ne pouvait s'adresser qu'à ses parents. Il a donné un exemple dans le cas du petit Hans, dont le père lui racontait les espèces de séances qu'il faisait, les rêves, etc. Et Freud n'a vu le petit Hans qu'en deux occasions. Mais il lui a donné une interprétation à ce moment-là, à propos de dessin d'un cheval, où Freud a reconnu qu'en fait c'était le père. Le petit Hans avait peur des chevaux, avait une phobie des chevaux, de la chute des chevaux. Il lui a dit qu'il savait qu'avant sa naissance, naîtrait un jour un petit Hans qui aurait peur de son père, parce qu'il avait, etc., parce qu'il avait peur d'être comme lui, et il lui a donné l'interprétation édipienne. Donc il a donné une interprétation à un enfant, mais il pensait qu'il ne fallait pas le faire.
Cependant, directement, il l'a donné à travers son père.
Non, il lui a donné à lui, parce qu'il l'a vu deux fois. Hans a vu deux fois le professeur, c'est un garçon de 5 ans. Alors il a conseillé à sa fille Anna de faire la psychanalyse d'enfant quand même. Parce qu'elle ne pouvait pas être psychanalyste puisqu'elle n'était pas médecin. Elle est devenue jardinière d'enfants et de par là, elle s'est intéressée à l'enfant à partir de la pédagogie donc. Dans un jardin d'enfants socialiste d'ailleurs, dit socialiste à Vienne. Elle s'est intéressée à la pédagogie et avec certains analystes qui l'entouraient, elle a commencé à faire la psychanalyse d'enfants. Alors, c'est à partir d'elle que l'application de la psychanalyse à l'enfant s'est développée. Puis il y a aussi une femme qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la psychanalyse qui s'appelle Ida Hug von Helmuth, qui était une Allemande qui a commencé à faire de l'analyse chez l'enfant en allant chez les parents. Elle allait à la bicyclette, comme ça, d'un parent à l'autre. Elle faisait la psychanalyse. Elle a été assassinée, d'ailleurs, par son neveu. Elle est morte comme ça. Elle, c'est la première à avoir appliqué le jeu chez l'enfant, avoir essayé de comprendre la nature du jeu comme la nature du langage chez les adultes. Alors ça, historiquement, c'est donc comme ça, autour de la Première Guerre mondiale, que ça se situe juste après la Première Guerre mondiale. Puis il y a eu Melanie Klein, qui constitue l'autre pôle de la psychanalyse d'enfants, qui, elle, était une élève de Berlin, à Berlin, qui a considéré qu'elle pouvait comprendre tous les fantasmes de l'enfant à travers leurs jeux, et que les jeux des enfants permettaient de comprendre la vie la plus archaïque, la vie psychique la plus archaïque. Alors il y a eu une opposition entre Melanie Klein et Anna Freud, mais Anna Freud pensant qu'il fallait permettre le développement de l'enfant, qu'il fallait permettre que l'enfant se demande à être traité, etc., tandis que Melanie Klein interprétait le jeu des enfants. Ça a abouti à une querelle très importante quand Anna Freud s'est réfugiée à Londres, où Melanie Klein habitait depuis longtemps. Elle avait été invitée, elle y était restée. À une querelle qui a failli faire sauter la Société britannique de psychanalyse, et querelle qui reste encore vivante en ce moment entre d'une part ce qu'on appelle les Kleiniens et d'autre part ceux qui se réclament plutôt d'Anna Freud.
Alors, quelles sont les différences ?
Anna Freud considère que pour qu'un enfant soit traité, il faut qu'il accepte, qu'il veuille être traité. C'est-à-dire qu'il faut que les parents lui permettent cela, il faut que les parents collaborent au traitement et qu'on ne peut pas considérer que ce qu'il dit ou ce qu'il joue est une production directe de son fonctionnement mental. Il y a tout un système de résistance, système de défense qui empêche comprendre comme chez un adulte. Donc pour Melanie Klein, il suffit d'interpréter le jeu de l'enfant. Par exemple, quand deux voitures se cognent, Melanie Klein pourrait dire « bien c'est tu as peur que deux voitures se cognent comme tu as peur de savoir ce que tes parents font la nuit quand ils font l'amour ensemble. » Voilà, je voulais quelque chose. Alors, Melanie Klein a développé la compréhension de l'archaïsme psychique chez le bébé, chez l'enfant, à partir des jeux d'enfants dans les traitements d'enfants. Et elle a décrit des choses intéressantes, en particulier une notion comme la projection identificatoire, c'est-à-dire qu'elle a décrit que la frustration du sein que l'enfant veut avoir entièrement pour lui l'amène à projeter dans l'image qu'il se fait du sein tout son ressentiment, son agression. Et c'est ce qu'elle appelle les projections identificatoires qui sont certainement très importantes encore actuellement, qu'on considère comme très importantes chez les malades gravement perturbés. Donc elle a apporté des choses très importantes pour le traitement des malades les plus graves. Voilà le début de la psychanalyse d'enfant.
Donc vous disiez que l'antagonisme entre Anna Freud et Melanie Klein est encore vivant aujourd'hui.
Oui, moins parce qu'elles sont mortes toutes les deux. Oui, bien entendu, sûr. Ça s'est atténué, mais il y a quand même des tenants de Melanie Klein et les tenants du développement de l'enfant qui ont réveillé tout ce qui se passe dans la compréhension du bébé, dont on parlera peut-être tout à l'heure si vous le voulez bien.
Alors vous, justement, comment vous vous situez
Et moi, je pense que Melanie Klein a apporté des choses intéressantes, mais que ce qu'elle dit est inadmissible sur le plan scientifique. Quand elle pense, par exemple, si vous voulez, que l'enfant considère que le sein qu'il faudrait avaler, c'est comme la mère considère le pénis du père, et que le pénis et le bon sein à avaler sont identiques, je considère qu'un enfant de 6 mois ne peut pas penser ça, parce que la connaissance du pénis comme bon sein par l'enfant de 6 mois, ça ne colle pas pour moi. Alors que ça se trouve chez les malades psychotiques à l'âge adulte, des productions de ce genre-là, je le crois, il y a toute une,
une
épaisseur entre les deux. Donc je me situe plutôt du côté des développementalistes, c'est-à-dire ceux qui tiennent compte du développement du très jeune enfant, et ceci d'ailleurs dès la grossesse.
Mémoire du siècle, Serge Lebovici. Freud a dit que quoi qu'on fasse, on fait toujours mal quand on élève ses enfants, dans l'élevage des enfants.
Il a dit qu'il y a trois professions difficiles.
Oui.
Profession d'homme politique, pédagogue et psychanalyste.
Tout de même, lorsque donc on est confronté à des problèmes plus ou moins graves en tant que pédiatre ou psychanalyste ou psychiatre, est-ce que vous prenez par exemple en charge l'enfant ou est-ce que c'est plutôt les parents qu'il faut traiter? C'est-à-dire, j'aimerais que vous parliez un petit peu de tous ces phénomènes transgénérationnels.
Bien. Alors, d'abord, pour répondre à votre question, je vais arriver au transgénérationnel dans un instant. Je crois qu'il y a des cas où l'enfant doit être traité par une application aussi stricte que possible de la psychanalyse. Des cas de névrose franche, très invalidante, c'est l'enfant qu'il faut traiter. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il faut aussi impliquer la famille. Je vais vous donner un exemple, si vous voulez, qui relève d'une chose très, très récente. J'ai vu une petite fille qui n'accepte pas de serrer la main. Elle ne veut pas dire bonjour ni au revoir. Elle dit bonjour, au revoir, mais elle ne veut pas serrer la main. Alors je pense qu'elle a peur de serrer la main et elle me dit qu'elle ne veut pas me parler de ça. Je la fais dessiner quelqu'un qui a peur de serrer la main. Alors elle dessine, elle, donc, sans les mains. Elle va dessiner ensuite, elle en serrant la main, je lui demande de dessiner elle en serrant la main, alors à ce moment-là, elle va se dessiner en garçon. Puis ensuite, elle va dire ce garçon est son père, puis elle va dessiner sa mère, qui n'a pas de main de nouveau, puis trois enfants. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'elle me déclare là, c'est que si elle me serre la main, elle cessera de pouvoir désirer être un garçon. Hein ? Alors ça, je pense que quand la mère peut comprendre ça, c'est très important de pouvoir en comprendre la nature de cette situation avec la mère, c'est-à-dire le déséquilibre entre la mère et le père. Et il n'y a pas de traitement qui ne doivent aborder la question de la situation de l'enfant dans sa famille, c'est évident. Dès le début, on avait pensé qu'il fallait aussi traiter les parents, ce qui n'était pas vrai, parce que les parents ne sont pas malades, ne demandent pas à être traités, mais les aider à comprendre leur situation. Puis les théories familialistes sont survenues et elles montrent à l'évidence que l'enfant exprime quelque chose du malaise familial et que la famille tire son compte de la maladie de l'enfant. Il y a beaucoup de psychoses de l'enfant, par exemple, qui ne sont pas dues à la situation familiale, mais la situation familiale persiste malgré la dissension entre les parents, ne serait-ce que parce qu'il y a un malade grave. Voilà un exemple très simple. Donc on ne peut pas aborder même une psychanalyse approfondie sans traiter la famille. S'occuper de la famille, traiter est un mauvais mot. Famille n'étant pas malade, mais s'occuper de la famille. Sans faire percevoir aux parents la signification de la maladie de l'enfant pour l'équilibre familial.
Mais lorsque les parents se rendent compte, par exemple, là vous parliez d'un dysfonctionnement dans la relation entre la mère et le père de cette petite fille, est-ce que le fait par exemple de s'en rendre compte va changer quelque chose? Parce que c'est difficile.
Non, je ne crois pas qu'on change quelque chose, mais on change quelque chose à l'attitude réactionnelle à l'attitude de la petite fille. C'est-à-dire que les parents comprenant qu'ils sont impliqués peuvent changer quelque chose dans leur relation avec l'enfant. Pas entre eux, mais dans leur relation avec l'enfant, oui. Sinon, il faut faire une psychothérapie familiale. C'est autre chose. Je prends un exemple, si vous voulez. Un exemple très simple, d'ailleurs. J'ai vu cette semaine une dame qui m'a amené son bébé de 2 ans et demi avec son mari parce que ce bébé ne parlait pas. Alors, moi, j'ai vu tout de suite que c'est un enfant qui allait parler assez prochainement. Il jargonnait. J'ai été assez rassurant. Mais j'ai vu aussi que cet enfant avait probablement une arriération plus globale, qui ne s'était pas seulement en retard de la parole, mais il y avait aussi, il a marché qu'à 15 mois, enfin il avait un retard général. j'ai dit aux parents, nous sommes en 1992-13, il faut faire des examens biologiques, on ne peut pas ne pas faire un électroencéphalogramme, une radio du crâne peut-être, un scanner, enfin, chercher quelque chose d'organique. Alors la mère s'est mise à hurler en disant, je savais bien que j'allais chez un psychiatre et qu'il allait me faire faire des choses impossibles, c'est toujours la même chose, etc. Bon, très bien. J'ai dit, écoutez, c'est pas urgent, on ferait ça plus tard. Et je m'apprêtais à me séparer de ses parents. Quand j'ai dit, je vais dicter devant vous le compte-rendu de la consultation, parce que je tiens à que vous sachiez que je ne considère pas ça comme grave. Je le disais d'autant plus que je savais, parce que ma mère me l'avait dit, qu'on lui avait expliqué qu'un enfant avait 3 mois, que c'était peut-être un autiste, parce qu'il ne jouait pas comme tout le monde. Il était très solitaire, très isolé, il ne jargonnait pas. Alors j'ai dicté un mot rassurant, et puis je m'apprêtais à me séparer quand la mère a repris la parole en pleurant, en disant, je savais bien ce que c'était que d'aller chez les psychiatres, mon père allait tout le temps chez les psychiatres. Alors j'ai appris que son père, dont je ne donnerai pas la profession, des gens de Paris d'ailleurs, son père avait probablement été déprimé, allait souvent chez les psychiatres, et que sa mère lui reprochait d'aller chez les psychiatres et de ne pas s'occuper de sa fille, la mère du bébé. C'est-à-dire que la mère du bébé, donc, dit, ma mère, à moi, la grand-mère maternelle, pourra me reprocher comme à son mari de ne pas s'occuper des enfants. Elle m'explique d'ailleurs, à ce moment-là, qu'elle s'occupe d'œuvres charitables beaucoup et qu'elle ne s'est pas beaucoup occupée de ses enfants. Et qu'on le lui reproche. Et qu'on lui a dit de venir me voir pour montrer qu'elle s'occupait de ses enfants, enfin. C'est-à-dire qu'au fond, elle est condamnée à se sentir condamnée elle-même, pas s'occuper des enfants parce que son père allait voir les psychiatres. Aller voir le psychiatre, c'est la preuve qu'elle ne s'occupe pas bien de ses enfants. Voilà un exemple très simple, si vous voulez, de cette transmission transgénérationnelle qui condamne cette mère à ne pas s'occuper des enfants comme elle le voudrait et à en subir le reproche, à se faire le reproche interne, la voix de sa mère, qui d'ailleurs ne manque pas de lui téléphoner en lui disant « Pourquoi tu n'as pas été encore voir le psychiatre, moi, qu'elle m'avait recommandé d'aller voir ?» Voilà un exemple simple. Alors, ça veut dire, si vous voulez, il ne s'agit pas d'un héritage direct, il s'agit simplement du fait que les conflits infantiles des parents sont répercutés sur l'enfant qui en est le mandataire, qui en est le porteur, qui vient les expier, si vous voulez, avec sa propre vie.
Alors justement, dans ce cas, par exemple, que peut faire le psychanalyste lorsque la mère donc prend conscience peut-être de quelque chose,
voilà,
lorsqu'elle
vient... Là, ça va tout seul, là, vous comprenez, ça va tout seul. Elle se rend compte que c'est pas l'enfant et elle qui sont en cause, c'est sa mère, son père et elle. Donc l'enfant n'est plus porteur de ce mandat.
Donc elle est déculpabilisée,
oui,
elle-même.
Bien sûr.
Et elle peut...
Ça, c'est des consultations très positives, ça. Il y a des cas de mauvais traitement, par exemple, qui sont beaucoup plus graves, où la mère ne fait que battre un enfant parce qu'elle a envie de battre son propre père, qui ne s'est pas occupé d'elle, par exemple. On voit ça. Alors là, bien entendu, ça demande des mesures beaucoup plus complexes. Mmh. Au fond, on peut dire que cette transmission intergénérationnelle est d'autant plus serrée que les conflits sont plus graves. Et nous, vous et moi, j'espère, nous avons échappé à cette transmission et nous pouvons nous affilier à la culture. Notre filiation réexiste, mais elle n'est pas suffisamment prenante pour nous imposer absolument notre conduite, nous échappons au poids de notre mandat familial et nous affilions à la société. Donc dans les cas les plus simples, nos conflits infantiles sont à peu près métabolisés et nous sommes libres pour nous affilier à notre culture, à la culture dans laquelle nous vivons. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes toujours la victime de ces racines familiales dans lesquelles nous plongeons.
Serge Le Bovici, pour en revenir, disons, à l'histoire de la pédopsychiatrie en France depuis la guerre, est-ce que ça a été bien accepté, justement, ces interprétations de type psychanalytique au cours des années? Enfin, je ne sais pas, maintenant on en parle beaucoup, mais c'est relativement récent finalement. Ça fait peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années,
oui,
que c'est entré dans les mœurs.
Oui, je crois qu'après la guerre, ça a débuté gentiment. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'hôpital des enfants malades, j'étais assistant du professeur Heuer, qui était le psychiatre d'enfants, comme ça, le plus connu en France. Et il y avait eu des psychanalystes qui avaient travaillé dans son service avant la guerre, n'est-ce pas? Il y avait Dolto, il y avait Boutonnier, il y avait Berge, il y avait même Laforgue. Mais ils travaillaient dans la solitude et dans l'ombre. Et moi, j'ai institué, que ça soit clair, dans le cadre de la collaboration dans le service, nous voyons les enfants avec la casquette analytique et psychiatrique, mais aussi nous ne perdions pas la casquette analytique quand nous voyions des enfants, quand nous faisions des observations. Je dis nous parce que il y a toute une sorte de camarades qui ont travaillé très rapidement avec moi et nous sommes restés une équipe assez solide. Alors, nous avons donc travaillé clairement dans le domaine de la psychiatrie en psychanalyste, et c'est dans cette mesure-là que, bien qu'on travaillait dans des conditions matérielles lamentables, je me rappelle, c'est dans des greniers entourés de draps, On avait appelé comme ça ces boxes qu'on fermait avec des draps, le box anaphroïde, le box mélanique là, et j'ai dit ça pour vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien qu'on ait travaillé dans ces conditions épouvantables, on a quand même affronté, affirmé qu'on pouvait être psychiatre et qu'on devait être, à mon avis, aussi psychanalyste. L'un ne se passait pas de l'autre. C'est pas seulement de faire des traitements qu'on a fait, c'était aussi d'apporter un esprit nouveau pour comprendre les patients, rédiger leurs observations, prévoir leur avenir et travailler avec leurs parents, avec les médecins. Alors c'est à partir de cette expérience que le noyau français s'est développé. Et à cette époque, les centres psychopédagogiques sont apparus en France sur le modèle des centres de guidance infantile anglo-saxons, enfin plus ou moins. Il y avait toujours là, disons, une clinique dite psychodynamique, c'est-à-dire qui attribuait au conflit infantile un rôle essentiel. Et la psychiatrie de secteur est née à cette époque dans ces conditions. Et c'est dans les fin des années 50 que le premier centre de secteur est né dans le 13e arrondissement, que je l'ai fondé. Philippe Pommel s'occupant du centre d'adultes et moi du centre d'enfants, et que notre équipe s'est soudée là pour créer un centre de secteur ouvertement psychanalytique, c'est-à-dire s'occupant des parents, des enfants, pour faire des traitements, mais aussi essayant de comprendre les familles à travers la théorie psychanalytique, affrontant aussi les travaux dans les écoles, avec une compréhension des relations entre les maîtres et les enfants, les maîtres et les familles aussi dans le même sens. Et que nous avons travaillé donc non seulement à l'intérieur des centres, mais aussi avec la population. Et nous avons donc là ouvert à la psychanalyse tout un secteur qui lui était fermé jusqu'à présent.
Mais est-ce qu'il y a eu des luttes, notamment avec quelqu'un comme Debré Ritsen, par exemple
Debré Ritsen est plus récent. Il était plus récent, bien qu'il soit à la retraite. Et bien entendu, c'était un adversaire résolu de la psychanalyse.
Et il ne devait pas être le seul, je veux dire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de résistance de la part des pédiatres?
Les pédiatres, énormément.
Une absence de formation, peut-être.
Les pédiatres ne comprenaient rien du tout, estimaient que c'était des bavardages, des stupidités, et restaient fidèles à l'esprit de l'organicité des maladies mentales, des maladies physiques, des maladies qu'ils voyaient. C'est beaucoup plus récemment, alors vraiment très récemment, qu'on s'est occupé des relations dans les services pédiatriques. Les malades ont été conçus comme des malades qui avaient aussi une vie personnelle, une vie psychique, même les enfants, qu'il fallait aussi s'occuper de cette vie psychique, et qu'on a compris que dans beaucoup de cas, il fallait que la santé mentale soit aussi prise en considération, et en particulier dans le cas des maladies graves. Et vous savez, par exemple, dans les cancers des enfants, on n'admettait pas qu'ils souffrent, on n'admettait pas la souffrance, la douleur chez l'enfant. C'est très récemment qu'une de mes jeunes collègues et collaboratrices a apporté à l'Institut Gustave Roussy la notion que les enfants souffraient, qu'ils avaient besoin d'analgésiques quand ils avaient des cancers. Jusque-là, pas. Pendant la guerre, on opérait les enfants de mastoïdite, on opérait beaucoup les enfants de mastoïdite, on estimait que c'était la cause du choléra infantile. On les opérait sans anesthésie, on leur mettait un biberon dans la bouche et on tapait dans l'oreille. Oui, oui, on pensait qu'ils ne souffraient pas, un biberon leur suffisait. Donc c'était terrible, n'est-ce pas, les expériences que vivaient les bébés à cette époque-là. Alors l'idée qu'il fallait s'occuper des enfants dans les maladies graves, dans les leucémies, etc., quand ils avaient des greffes, est devenue beaucoup plus tard. Ça, c'est vraiment récent. Et maintenant, il y a une ouverture assez considérable dans les hôpitaux de pédiatrie, par les pédiatres, vers la psychiatrie moderne et la psychanalyse.
On dit de plus en plus que le fœtus est une personne, que le bébé prématuré est aussi une personne, parce que lui aussi, on le maltraitait de soins, si je puis dire, sans se préoccuper du fait qu'il pouvait souffrir. Et je crois que là, c'est effectivement très important.
Alors pour le prématuré, il n'y a pas de problème. Et c'est même prématuré, ça veut dire aussi en avance, à certains points de vue. Il est évident que c'est nécessaire de s'occuper d'eux, pour eux, mais aussi pour la mère, pour la mère et le père, parce que ce sont des enfants pas bien formés, pas tout à fait formés. C'est difficile pour eux de les approcher, ils se sentent coupables. Ils ont l'impression qu'ils vont les casser s'ils les approchent. Donc il faut qu'ils y aillent, il faut qu'on leur permette de donner des soins, qu'ils participent aux soins. Ça, c'est tout à fait nouveau et ça s'est généralisé. Alors, dire que le fœtus est une personne, ça, c'est une autre affaire. Qu'il y ait des rythmes chronobiologiques qui s'installent dès la vie fœtale, dans le domaine de l'audition, de la déglutition, du goût, ça, je n'en doute pas. Mais dire qu'il est une personne, c'est-à-dire avec une vie psychique, ça c'est une autre affaire. Il a une sensorialité évidente. Que cette sensorialité soit l'étape préalable à la vie psychique, je le crois. Hein. Alors moi je dirais pas que c'est une personne, je dirais que c'est une pré-personne. Personne qui est réduite à sa sensorialité. Mais la sensorialité, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il faut peut-être le dire, la sensorialité, c'est là comme ça que débute la vie psychique. Est-ce que j'en dis un mot?
Oui.
Pour Freud, la vie psychique naissait du fait de la privation du sein. C'est la privation. Il disait l'absence de saint crée le saint. L'absence de représentation du saint crée le saint en raison du réveil des expériences antérieures par l'absence de la mère, réveiller les expériences de satisfaction antérieures et donner lieu à la vie psychique. Alors depuis qu'on a modifié cette théorie au nom de l'attachement, c'est-à-dire du besoin de proximité entre la mère et l'enfant, on étudie les interactions. Alors du côté du bébé, les interactions sont faites de ces représentations des soins maternels qui sont remarquablement précoces. J'en donne un exemple, n'est-ce pas ? Quand un bébé tend les bras vers la mère, quand il la voit vers 3 semaines, la mère pense qu'il veut qu'elle le prenne. En vérité, il tend les bras parce qu'il n'est pas un singe, il ne peut pas courir vers la mère. Mais à 6 semaines, quand il entend la voix de la mère, il tend les bras. C'est-à-dire qu'il a reconnu l'existence de soins maternels quand il a besoin de la mère. C'est-à-dire qu'il se sait exister, d'une part, il a un soi, et d'autre part, il a sa sensorialité qui lui permet de reconnaître qu'il existe et que les autres existent. C'est-à-dire, il pourrait dire, ma mère, ça crie, ça pleure, ça, c'est bleu, bleu, c'est chaud, ça... C'est mouillé, ça sent, beaucoup de choses comme ça. C'est comme ça qu'elle va se constituer ses représentations maternelles, avec son soi. Mais il y a une étape fondamentale, c'est quand il reconnaît sa mère comme une personne existante, différente des autres. Je veux dire, il connaît bien sa mère comme différente de son père très tôt. Et la connaître comme ayant une fonction maternelle, ça ne débute pas avant 8 mois, sans doute. Et c'est à ce moment-là que la mère, il prête des intentions à sa mère, comme il en a, lui. Il pense que sa mère va venir, qu'elle ne va pas venir. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là un fonctionnement intersubjectif. Autrement dit, à ce moment-là, il fonctionne à peu près comme nous. Il est apte à peu près à manier la pensée symbolique. Enfin, en gros, comme ça. C'est-à-dire que le bébé est très actif dans sa propre vie mentale. Il la crée lui-même et il crée aussi la mère comme une mère. Winnicott, on n'a pas dit le nom, il faut le dire maintenant. Winnicott disait que quand un bébé regarde sa mère, il voit 2 choses. Il voit les yeux de sa mère, mais il voit sa mère en train de le regarder. C'est-à-dire que la mère voit que le bébé est en train de regarder qu'elle le regarde, etc., etc. Un jeu de miroir comme ça à l'infini, où se créent les deux personnes, où se met en œuvre l'intersubjectivité interactive.
Comment sait-on tout cela ? Est-ce que... C'est par l'observation c'est...
Quand on observe un enfant et sa mère dans les bras de sa mère, permettez que je prenne 2 ou 3 exemples. Quand un enfant est dans les bras de sa mère, la mère le tient généralement sur le bras gauche, hein, presque toujours, même si elle est gauchère. Le bébé regarde sa mère, dès les 3 semaines, 4 semaines, il voit sa mère à 30 cm, et la mère le regarde en oblique, vers le bas, à la gauche, comme la Vierge regarde souvent le bébé Jésus, l'enfant Jésus. À ce moment-là, il se produit un réflexe archaïque chez l'enfant. Il se fouille contre la poitrine de sa mère. Il se fouille contre la poitrine de sa mère et sa bouche cherche le sein maternel. C'est-à-dire qu'il a un mouvement de routine, ce qu'on appelle le routine réflexe, un mouvement de rotation de la tête. La mère, elle, a son lait qui monte et ses glandes sudoripares qui sont mises en activité. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont stimulés par l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empreinte. Cette empreinte-là est la base, si vous voulez, biologique, éthologique, c'est les bases comportementales des interactions. Mais en même temps, le bébé éprouve beaucoup de choses. Il accumule des traces. C'est comme ça qu'il va constituer ses représentations. Il va penser c'est chaud, ça sent, etc., etc., comme j'ai dit tout à l'heure.
En fait, c'est par l'observation, donc.
Oui, on fait observation du bébé. C'est-à-dire qu'on peut observer le bébé, mais on écoute la mère parler de ça aussi. Et la mère, elle dit qu'elle a plusieurs enfants dans la tête, si on écoute bien. Elle dit qu'elle a son enfant qu'elle a dans les bras, et puis elle a l'enfant qu'elle a voulu quand elle était enfant. Enfant de son complexe d'Œdipe qu'elle voulait donner à son papa comme sa mère. Ça, c'est l'enfant du grand-père maternel qu'elle a dans les bras, donc. Et puis, elle a aussi un enfant imaginaire. Il y a un enfant dont elle a rêvassé pendant la grossesse, qu'elle a voulu donner à son mari, qu'elle veut garçon, fille, auquel elle a donné un prénom en raison de choses plus ou moins évidentes, quelquefois très clandestines, quelquefois secrètes. Et tout cela constitue, elle l'a vu aussi à l'échographie, enfin elle croit l'avoir vu, elle sait qu'elle a su dans 3/4 des cas que c'était d'un garçon et une fille, tout ça, ça constitue un objet de rêverie, et cet objet de rêverie est aussi présent quand l'enfant est dans ses bras. Et c'est cet enfant-là, complexe, qu'elle a dans les bras, et auquel elle va appliquer ses recettes plus ou moins génétiquement organisées.
Serge Beauvici, nous n'avons pas parlé de la psychose, de l'autisme, de toutes les maladies graves liées à l'enfance. Est-ce que vous ne pensez pas que la psychanalyse a été peut-être un peu impérialiste en pensant que ces maladies venaient essentiellement de la famille ou des relations de l'enfant avec ses parents?
D'abord, les psychanalystes sérieux n'ont jamais pensé ça. Je pense que ce sont des fantaisies de la psychanalyse qui ont dit que c'était la cause de la faute des parents. C'est vrai que les parents...
Ça a quand même été bien dit.
Ça a été écrit même. Alors je veux dire que les parents sont tout à fait révulsés par cette idée-là et pensent eux qu'il faut appeler l'autisme, par exemple, un handicap. Alors c'est un handicap, c'est vrai, mais un handicap ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évolutivité de ce handicap. Et par exemple, c'est aussi vrai que quand un enfant est autistique, il ne se comporte pas, même avant que l'autisme soit déclaré, avec sa mère comme un autre enfant. Il ne la déclare pas mère, il ne la regarde pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle ne peut pas voir qu'il est en train de regarder qu'elle le regarde, il ne la regarde pas, il refuse de la regarder. Donc la mère n'est pas préparée à ce refus-là et elle se déprime. Et l'enfant se déprime aussi parce que la mère se déprime. C'est-à-dire que, sur la base probablement génétique de défauts cognitifs fondamentaux, qui sont des handicaps, se développent des relations troublées, qui sont d'ordre dépressif, essentiellement dépressif, et qui touchent le narcissisme essentiel de la mère, le fondement de la fierté de la mère. Et il y a là donc des motivations psychologiques aussi dans l'évolution de la maladie. Voilà, je crois ce qu'on peut dire pour être simple. Et je pense que c'est dans l'autisme en particulier qu'on trouve comment associer la compréhension des défauts du fonctionnement du système nerveux dans ses modalités les mieux étudiées maintenant, sur le plan génétique ou le plan moléculaire, d'une part, et les modalités relationnelles les plus précoces troublées. Mmh. On peut dire que l'autisme est à la fois un handicap et aussi un paradigme des relations troublées.
Serge Lebovici, je parlais tout à l'heure aussi d'un certain impérialisme de la psychanalyse. On n'a pas parlé de certaines figures qui ont compté. Comme Lacan ou Françoise Dolto. Lacan s'est très peu intéressé à l'enfant, mais je crois que dans la psychose, il avait une théorie qui était proprement psychanalytique, qui n'était pas, où il ne prenait pas en compte les aspects éventuellement génétiques.
Je ne sais pas s'il ne les prenait pas en compte. On veut dire qu'il n'en a pas parlé, peut-être qu'il les prenait en compte. Mais pour lui, n'est-ce pas, c'était la forclusion du nom du père. C'est-à-dire que c'est un rapport direct avec la mère, et je crois que dans les psychoses de l'adulte, il n'y a pas la constitution du conflit édipien triangulaire. Alors pour simplifier les choses à l'extrême, la pensée de Lacan était en effet que le père était exclu de la relation entre le psychotique et sa mère. Ce qui est peut-être vrai, dans une certaine mesure, sur le plan conflictuel, il n'y a pas ce conflit névrotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élaboration édipienne du conflit. Dire, c'est vrai. Je ne sais pas, Lacan n'a pas dit ça exactement. C'est moi qui mets sa pensée à l'ordre du jour. Là.
Comment ça s'est passé entre vous et Lacan?
Je connaissais Lacan, avant la guerre, parce que je n'étais pas mêlé à ce milieu, mais j'ai connu Lacan quand il est revenu à la Société psychanalytique après la guerre. Il était venu avec Merleau-Ponty à la première séance et il a été accueilli d'une manière diverse, plutôt pas très favorable d'ailleurs. Il est devenu ami avec Nacht, qui était l'animateur du mouvement analytique en France. D'ailleurs, il a été témoin du second mariage de Nacht, dans le midi de la France, et ils étaient donc bien ensemble, et c'est leur querelle qui a constitué finalement la base de la scission. Nacht avait voulu refonder la société psychanalytique sur des bases solides, analogues à celles de l'association internationale, et les pratiques de Lacan de séances courtes ou ultra courtes n'étaient pas convenables. Lacan s'était engagé à prendre des séances de durée normale avec les candidats de l'Institut Nouveau, il ne l'a pas fait, il demandait aux candidats de ne pas dire la vérité, ce qui était vraiment scandaleux, ce qui a provoqué les premiers conflits où Lacan a été soutenu, et au moment de la scission...
En
53. Au moment de la scission, Lacan n'a pas été président de la Société psychanalytique de Paris, il a été déposé. On a dit qu'il ne pouvait pas continuer à être président. Et un certain nombre de psychanalystes sont partis à ce moment-là en jugeant que la société était impérialiste et dictatoriale. Obéissant trop à Nash, c'était de la gâche, enfin les universitaires, disons, la gâche Boutonnier en particulier. Et Lacan n'était pas prévu là-dedans, il les a suivis. Et alors il les a ennuyés ensuite, puisqu'il a été également exclu plus tard de cette association. Enfin, du moins, l'API, l'Association internationale de psychanalyse, a demandé à la nouvelle société de ne pas donner à Lacan le pouvoir de faire des années didactiques. Et Lacan a fondé à ce moment l'école freudienne de Paris. Avec Dolto l'a suivi à ce moment-là.
Et après ? Elle est restée avec lui ? Elle est partie ?
Non, elle est restée avec lui, mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle ait été, dans le sillage de la pensée de Lacan. Elle avait une pensée plutôt personnelle. Je trouve qu'elle a été un personnage tout à fait utile à la radio française, mais pas avec les patients.
Ah bon ?
Non, ça je crois pas.
Pourquoi ?
Parce qu'elle était, je trouve, intuitive, elle disait un peu n'importe quoi, me semble-t-il. Elle interprétait les dessins d'enfants sans avoir vu l'enfant. Le cas Dominique est un cas exemplaire de falsification.
C'est un livre qu'elle avait écrit, oui. Donc, sur une psychose.
Je veux dire qu'on guérit une psychose en 10 séances, c'est une plaisanterie. Et je pense qu'elle a modifié l'équilibre familial. Elle a été une bonne familialiste à cette époque-là. Parce qu'elle a bien compris la situation de Dominique par rapport à sa mère et son père. Et l'inceste, enfin, qui n'était pas barré par le père. Personnage à deux, là. Les conflits à deux. Mais je ne crois pas qu'elle ait été une psychanalyste vraie. Je crois qu'elle a été excellente dans le domaine de la diffusion de la psychanalyse. J'ai entendu dire que dans sa dernière émission avec Pivot, que je n'ai pas vu, était remarquable. Je n'ai pas vu, mais tout le monde dit qu'elle était remarquable. Et je crois que là, elle a joué un rôle très positif, pas ailleurs.
Pas en tant que psychanalyste d'enfant.
Franchement, je ne le pense pas.
À propos du cas Dominique, est-ce que Serge Lebovici, avec l'expérience que vous avez avec les enfants et peut-être les adultes aussi, est-ce que vous pensez que la psychose peut se guérir ?
Enfin, dans la psychose, c'est très vaste.
Il y a plusieurs psychoses.
Il y a l'autisme. Ouais. L'autisme, je crois, ne guérit pas, c'est une maladie franchement. Un potentiel génétique qui peut évoluer favorablement. Et je connais des autistes qui vont assez bien. J'en ai vu récemment, que je connaissais depuis 40 ans, qui montent une vie pas tout à fait autonome, mais presque. Mais dans l'ensemble, ce sont des sujets qui évoluent comme ça vers un état d'isolement social et apparaissent comme des grands handicapés. Alors il y a des disharmonies évolutives graves qui, elles, peuvent évoluer très favorablement. Et c'est vrai que la psychanalyse, non seulement d'enfants, mais d'adultes, traite de plus en plus des cas graves. Des cas graves qui ne se marquent pas forcément par des symptômes graves, bruyants, mais des cas graves, par les limites du moi. Les limites de la personnalité qu'elles introduisent sont les cas limites, en particulier, que les psychanalystes sont de plus en plus à traiter, qui constituent des traitements difficiles et longs. Donc on peut dire que la psychose ou les états psychotiques dans leurs formes les plus diverses, peuvent être abordées par la psychanalyse sans qu'on espère des modifications radicales de la structure psychopathologique.
Freud, je crois, s'intéressait, enfin, disait que la psychanalyse s'appliquait aux névroses et beaucoup plus difficilement, ou pas du tout, aux psychoses. Ouais. Est-ce que, pour terminer, Serge Lebovici, on peut, comme ça, faire une sorte de synthèse de l'état de la psychanalyse, de comment elle a évolué en France, enfin, depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui?
Alors donc, si vous voulez, en 1953, il y a eu la scission dans la Société psychanalytique de Paris, la création d'une association qui a été reconnue quelques années plus tard et qui a été reconnue après le départ de Freud, de Lacan et de Dolto, qui constitue l'Association psychanalytique de France. Et ce sont ces deux associations, la Société de Paris et l'Association psychanalytique de France, qui font partie de l'Association internationale de psychanalyse pour la France, association internationale dont j'ai été président, entre 1973 et 1977. Alors ces deux associations constituent environ 700 ou 800 personnes à elles deux, n'est-ce pas ? Puis il y a des centaines d'analystes qui sont issus de l'éclatement du mouvement lacanien, puisque pour être psychanalyste lacanien, il faut se déclarer psychanalyste soi-même, n'est-ce pas ? On n'est psychanalyste que par soi-même, il n'y a pas de formation très stricte, il y a d'autre part beaucoup de sectes, de mouvements qui s'opposent les uns aux autres, et qui sont en train, je crois, de perdre de l'influence. Bien que, dans les universités non psychologiques, dans les disciplines des sciences humaines non psychologiques ou non psychiatriques, le psychanalyste garde une influence très forte en France et que Lacan y soit l'objet d'une révérence, enfin d'un respect considérable. Le lacanisme a une grande importance, certainement, dans les universités françaises, dans la partie.
Et vous l'appelez secte ?
Oui, j'ai une tendance à considérer que ce sont des sectes.
Et la psychanalyse ne serait pas une secte ?
Non, je crois pas du tout. Non, je crois que c'est un mouvement ouvert. Ça doit rester un mouvement ouvert. Tant sur le plan des idées que sur le plan de la
Parce
formation.
Parce qu'il y a toujours eu des histoires comme ça. On sait.
Il y a des scissions, vous voulez dire.
Des scissions, enfin, autour de Freud.
Vous savez, quand on vit toute sa journée à ne pas bouger, à maintenir son agression comme ça, sous le boisseau, le soir, ça éclate facilement.
Mais en quoi, justement, la psychanalyse peut-elle s'autoriser de quelque chose qui permette de dire que ce n'est pas une secte et que ce n'est pas une croyance, en tout cas, ou que ce n'est pas une religion ?
Je ne crois pas du tout au Talmud freudien ou à la Torah freudienne ou à la Bible freudienne. Je crois que Freud est le créateur de la psychanalyse, premièrement. Deuxièmement, je pense que la psychanalyse est une discipline ouverte pour la formation. Et que les méthodes de sélection, de formation des psychanalystes sont des méthodes ouvertes, qui sont des méthodes pédagogiques, je trouve, à bien des égards, excellentes, dont devraient s'inspirer beaucoup d'universités. Troisièmement, je crois que les psychanalystes sont libres dans les sociétés psychanalytiques de s'exprimer, d'écrire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de bonnes paroles et de mauvaises paroles. Et alors ceci s'oppose à cette espèce de sectarisme du lacanisme, je crois. Hein. Voilà ce que je peux dire. Mais je pense que sur le plan scientifique, la psychanalyse ne trouvera sa place que tant elle trouvera de bonnes relations avec les disciplines modernes du type neurobiologique et des autres sciences humaines, quand elle acceptera qu'elle soit évaluée dans ses résultats, quand elle acceptera aussi de faire la base de recherche clinique, et ça, il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire, et je m'en réjouis.
Aujourd'hui, Serge Lebovici, quel est le bilan que vous faites de votre vie de psychanalyste et psychiatre?
Eh bien, écoutez, moi, je fais un bilan, je pense, positif. Je crois que j'ai fait des choses intéressantes, et je continue à en faire. C'est ça qui me passionne, c'est que malgré mon âge avancé, et ma vieillesse, puisqu'on peut parler de vieillesse, je continue tous les jours à voir des choses intéressantes. Je fais des recherches qui sont basées sur la psychanalyse et maintenant essentiellement sur le bébé.
Vous pensez qu'on en est au début ?
Oui, avec le bébé certainement.
C'était les Mémoires du siècle de Serge Lebovici. Une émission d'Eliane Contini, mixage Mireille Gauthier, réalisation André Mathieu.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 30 octobre 1994. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
If there is someone calling you and asking what you'd like to do, no doubt, I dream the doubt. All my days I was spent with you, but you can't heal me, no, no. Then I like to smile for it all and searching for real and strong sensations, flying like a bird without a destination. That's what I like to do, baby. There's a new way I should go, baby. And it's something new to be myself. You should go out and buy a ticket of my new show. There's a new way I should go, baby. And it's something new to be myself. You should go out. You feel surprised, but what I really do, you'd love to do, no doubt, I dream the doubt. Oh, my days I was spent with you, but you can't heal me, no, no. Then I like to smile for it all and search for real and strong sensations, flying like a bird without a destination. That's what I like. Something new to be myself. You surprised, baby, by what I really do.